Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM 88.4. Retrouvez toute l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Revue de presse, cinéma, consommation responsable, agenda culturel et sportif, nos invités vous parleront de leur actu. Marmite fait son actu, une émission présentée par Nouradine Agne sur Marmite FM 88.4.
Bonjour à toutes et tous, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Notre invité, Mehdi Litim, que vous connaissez bien sûr sur les ondes de Marmite FM, fondateur du Trapi Blog, ancien animateur de l'Écho pour tous, est avec nous parler de la crise des urgences en France, des déserts médicaux également et des solutions qui existent pour pallier ces nombreux problèmes d'accès aux soins. Les chroniques de Marmite fait son actu seront bien sûr au rendez-vous avec l'actualité du cinéma Le Grenier à sel, la minute conso de Pierre Joannet. Il nous parlera des nouveaux types d'arnaques sur le site Le Bon Coin. Le journal d'actualité locale, c'est à 17h10 avec Laure d'Almeida, à quelques jours du premier tour des législatives. On fera un petit récap sur les enjeux de la 11e circonscription des Yvelines. Alors on va commencer cette émission en musique et on revient juste après pour parler cinéma, musique. Things that are unseen. 1618.
Never learned when to stop. Even red lights made me wanna go. Never learned by my tongue. In a straight line, I was riding home. Pedal bike, bed, damn, was all I had. Now we're here in a world without that. What's in her eyes so pretty? Like a mirage in the summer sun. Wishing I had 5 minutes. I could see if we could fall in love deep. Brought me out of the room for seconds deep. Waking up to the snap of fingers. Why you lacking energy? Always gonna fall asleep. Where you at? Even though you ever know, stressing I was lost in my mood. Palm slammed against the wheel, seeing every single fear pass through my brain. Blame it on feels good, popping champagne. Can let my career, cause I gotta stay sane. Know that I'm steering my own terrain. Won't you please? To see the limelight so squeaky clean, sure. Flip me out with the low numbers, fear of losing what I ain't still. My illusion is the present came before. Why you lacking energy? Always gonna fall asleep. Where you at? Do you even know? You ever know? Stress and love is lost in my mood.
Écoutez, Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4, à l'instant Cassia avec le titre 1618. Allez, on va vous donner quelques nouvelles du cinéma. Le Grenier à sel attrape pour commencer cette émission avec une nouvelle programmation. Donc, pour ce mercredi 8 juin, Le médecin imaginaire, donc, qui vous emmène au Maroc, une comédie attachante avec Alban Ivanov, dans laquelle donc vous le trouverez cette fois-ci en interprète, qui interprète le rôle d'un DJ quelque peu diminué. Voilà, donc ça, c'est Le médecin imaginaire. Le deuxième film, c'est Utama, la terre oubliée, a été primé au Festival Sundance. Ce film éblouit tant par sa beauté visuelle que narrative, émouvant récit de la fin d'un monde et de ses irréductibles. Voilà, vous sentez que je suis en train de lire les pitchs hein, du site Le cinéma Le Grenier à sel. Et enfin, le troisième film, donc, c'est Arnaud Desplechin qui l'a dirigé avec Marion Cotillard et Melville Poupeau dans donc, le film qui s'appelle Frères et Sœurs, un duo touché par la grâce qui nous plonge dans un conflit familial inextricable. Au chevet de leurs parents, ces deux-là sont obligés de faire face à 20 ans de haine. Voilà, on entend dire hein, ça et là que ce serait le plus beau film d'Arnaud Desplechin. Voilà, donc programmé au cinéma Le Grenier à sel. Et puis, petite info également, le lundi 13 juin à 20h45, ne manquez pas en avant-première donc au cinéma Le Grenier à sel, un film surprise qui vous est proposé par l'AFCAE. Donc l'AFCAE, c'est l'Association française des cinémas d'art et d'essai. Si vous souhaitez retrouver donc tous les horaires de diffusion donc, de ces films, vous pouvez vous rendre sur le site internet du cinéma Le Grenier à sel, donc en tapant cinemagrenieracel.com, cinemagrenieracel.com. Allez, sans transition, on passe au flash d'actualité locale. Un flash qui nous est présenté par Lord Almeida.
Bonjour, alors le premier tour des élections législatives approche. Pour l'occasion, la ville de Plaisir propose des navettes gratuites pour emmener les personnes de plus de 60 ans à leur bureau de vote. La baladine, qui aide déjà les seniors depuis 2020, sera donc disponible dimanche de 9h à midi. Il suffira de s'inscrire auprès de la mairie. Le bus de la création d'entreprise va aussi faire escale dans 6 villes de Saint-Quentin-en-Yvelines du 13 au 17 juin. Avec ce dispositif national, l'association BGE sensibilise et conseille les entrepreneurs et les aide à monter leurs projets en allant à leur rencontre. Elle sera à Trappes, au Merisier et à la plaine de Naufle le 15 et le 17 juin, et il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous. Comme beaucoup de festivals, Escale d'ailleurs n'a pas eu lieu depuis 2019. Il fait son retour ce samedi 11 juin dans le parc du Château de Plaisir. Pour sa 19e édition, l'événement retrouvera ses déambulations artistiques, ses jeux et ses concerts jusqu'à 23h. Et dimanche, rendez-vous sportif cette fois à Élancourt. La revancharde, cette course de VTT qui compte pour la Coupe d'Île-de-France, profitera une dernière fois de son circuit habituel avant 3 ans. En effet, la colline sera ensuite réaménagée en vue des JO de Paris 2024. Une centaine de coureurs participeront à cette 24e édition de la course.
Merci Laure, on enchaîne avec les législatives, donc la 11e circonscription des Yvelines qui compte 11 candidats. Alors le vote c'est ce dimanche, donc 12 juin pour le premier tour, second tour la semaine suivante, donc le 19 juin. On commence avec Alexandre Arnaud du parti Reconquête qui nous donne les priorités, ses priorités en tout cas pour la 11e circonscription des Yvelines.
Et nous voulons réorienter plutôt la politique de logement vers la facilitation à l'acquisition de biens, en particulier pour les plus défavorisés. Nous pensons que la loi SRU est un gaspillage d'argent et quelque chose qui est mal vécu par la population. Après, je suis très attaché à la souveraineté industrielle et numérique. On a pu voir l'intérêt, l'importance d'une souveraineté industrielle, d'une cohérence dans notre stratégie récemment et particulièrement à la lumière des événements du Covid et sous la présidence de Macron. Notre campagne est intense, mouvementée, à plusieurs titres, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui nous soutiennent, qui sont très très chaleureux et parfois on a des gens aussi qui sont hostiles. On peut voir que les affiches Reconquête sont systématiquement arrachées. L'objectif est de gagner forcément, même si c'est une circonscription qui n'est pas la plus facile puisqu'on connaît les scores de LFI. C'est important pour nous d'être partout en France, particulièrement là où c'est le plus compliqué.
Christophe Aubin est tête de liste du parti animaliste. Il nous donne également ses priorités pour la 11e circonscription des Yvelines.
Nous, les objectifs justement, c'est la création effectivement d'un ministère de la protection animale, de la création aussi d'un code pénal animal et de la prise en compte de toutes ces spécificités qui n'est pas encore à l'heure actuelle, même au ministère de l'Environnement ou même au ministère de l'Agriculture. Vous voyez que c'est quand même un chasseur à l'arc qui tue des biches à coups de fléchettes dans la tête. Mais qu'est-ce que c'est que cette politique qui nous inflige de voir des assassins à la tête au pouvoir? Là, je suis un peu excessif, mais là, vous le voyez, il n'y a pas l'image, mais vous le voyez, là, ça m'énerve, je comprends pas. La chose qu'on pourrait faire déjà, c'est demander, par exemple, à toutes les mairies d'Elancourt, surtout de la Verrière, de stériliser les chats errants pour éviter qu'ils prolifèrent, de nettoyer un peu tous les lacs naturels qu'il y a pour retirer la vase et pour remettre une flore, une faune aquatique normale. Et voilà, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent en 2024.
Philippe Benassaya, député sortant, donc, est le candidat pour l'Union de la droite et du centre pour les Yvelines. Il nous donne également les priorités de la suite de son mandat s'il est réélu.
Alors, nationalement, on les connaît. Pour moi, c'est le pouvoir d'achat, la sécurité, la justice, l'école, grosso modo. Bien sûr, le cadre de vie, ça fait 5 thématiques importantes avec des propositions que je vais faire, bien évidemment. Mais il y a surtout des projets locaux que je porte et qui sont importants. Il y a bien sûr le commissariat d'Elancourt, il y a le marché de Fontenay, il y a les transports. Je fais un gros travail sur les transports pour augmenter la fréquence des transports en commun sur la circonscription. Il y a tous les projets que je porte avec les maires, ici à Saint-Cyr, à la Verrière, bien évidemment, avec l'aménagement du bois de l'étang, la requalification du quartier d'Orly Park. Vous voyez, c'est un travail de fourmi, probablement pas médiatique, mais c'est un travail que l'on fait avec les élus. Comme l'a rappelé mon suppléant Nicolas Naville, je vais le voir, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, je vais le voir et on fait le tour du quartier, on rencontre les gens, on essaie d'améliorer les choses. Voilà le travail un peu sur la circonscription.
William Martinet est lui candidat de la NUP sur la 11e circonscription. Cet ancien président de l'UNEF a tout naturellement pour priorité les jeunes et en particulier les étudiants. On l'écoute.
Proposer un programme, notamment avec la garantie d'autonomie pour les jeunes qui sont dans la voie professionnelle ou à l'université, c'est-à-dire 1000 euros par mois pour pouvoir vivre dignement et se concentrer sur ses études, pour que les études ne soient pas un privilège. Voilà, je suis très content aujourd'hui de pouvoir porter cette proposition et de dire aux gens, portez-moi à l'Assemblée nationale, faites que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et on pourra la mettre en avant.
Alors, puisqu'on est à Trappes, pourquoi justement Trappes pour cette première réunion publique et pour ce lancement de campagne?
Je crois que Trappes, c'est le cœur battant de la gauche dans cette circonscription. C'est voilà, au premier tour de l'élection présidentielle, c'est à Trappes qu'on a le plus d'électeurs qui ont porté leur voix sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon. C'est 60% des voix. Donc pour gagner cette élection législative, ça va se jouer évidemment dans toutes les villes de la circonscription. Mais ça va se jouer avec les trappistes. C'est beaucoup eux qui vont décider s'ils me font l'honneur d'autant se mobiliser pour moi qu'ils l'ont fait pour Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et bien c'est bon, on a gagné.
C'est au tour maintenant d'Aurélie Piacenza, candidate pour la majorité présidentielle, de donner ses priorités aux auditeurs de Marmite FM.
C'est les sujets de pouvoir d'achat.
L'école aussi.
L'école, tout à fait. Et la transition écologique, puisqu'on a une mesure forte qui est également une mesure de justice sociale, puisqu'on souhaite proposer pour les voitures électriques du leasing en quelque sorte pour que les personnes puissent s'acheter une voiture électrique à moins de 100 euros par mois. C'est pour les personnes modestes. Pour qu'elles puissent, en fait, pour pouvoir amorcer la transition écologique et laisser personne sur le bord du chemin, c'est vraiment ce qu'on prône depuis 2017, hein, faire en sorte de rassembler tout le monde et de s'adresser à tout le monde. C'est avancer efficacement sur la transition écologique, puisque ça ne vous a pas échappé que le président s'est engagé à nommer un Premier ministre avec quelqu'un qui sera chargé de la planification écologique auprès de lui. Et dans ce cadre-là, on a plusieurs mesures, dont celle-ci.
Voilà donc les autres candidats, alors qu'ils n'ont pas répondu à nos sollicitations pour des interviews. Olivier Galland, donc tête de liste de Debout la France, sur cette 11e circonscription des Yvelines. Raouf Maïza, de l'Union des démocrates musulmans français. Patrick Planck, de Lutte ouvrière. Sophie Chabanet, du Rassemblement national. Émeric Delfos, sans étiquette. Et Jean-Luc Tramoni, pour l'Union des centristes et des écologistes. Il est 17h14, vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Nous sommes en direct jusqu'à 18h pour vous parler de l'actualité de 50 ans Yvelines et ses environs. Allez, on marque une pause musicale et on revient juste après avec notre invité pour parler santé. A tout de suite.
Pourvu que jamais rien ne vous arrête. Écroulez souvent sous l'amour et sous ses dettes. J'ai bien l'âme à vous envier, mais c'est le cœur qui m'arrête. Car bientôt plus fort que vous viendra se joindre à la fête. La roue tourne et s'y tombe un des deux. L'autre roule ou s'écroule avec eux. À pédaler pour deux. Pourtant pas mal parti. Tous les deux dans la plaine. Te voilà raccourci. Tout seul sur ton tonnerre. Et l'âme en peine. Un traîner, un fantôme. Toi tu vas dérailler.
Et parfois s'en vont chercher tes mirettes au-dessus de ton épaule, pourvu qu'elles y trouvent une tête. Ton dos s'ennuie de voir filer des armées de pâquerettes et pleure de n'avoir plus personne à qui faire la causette. L'autre est tombé, ça y est, mais toi tu franchis la pente. Va au bout de la montée, tu verras la descente. Pourtant pas mal parti, tous les deux dans la veine. Te tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine. L'âme en peine a pédalé pour deux. Pourtant pas mal parti. Tous les deux dans la plaine. Te voilà raccourci. Tout seul sur ton tandem. Et l'âme en peine. A traîner un fantôme.
Et tu roules en martyr, en chantant à tue-tête que tout va pour le mieux. Mais je vois tes gambettes un peu distraite, qui cherche à qui pouvoir faire du pied. Va donc un peu partout et trouve-toi une athlète pour continuer la route à deux sur ton tandem. C'est mieux quand même. Puis deux sur un tandem, c'est mieux pour avancer.
Écoutez, Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Il est 17h19. Vous venez d'écouter Voyou avec le titre Seul sur son tandem, sélection musicale de notre programmateur en chef, Ronan. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des petites suggestions musicales à faire, vous allez sur le site marmitefm.fr et vous allez à la rubrique contact, vous envoyez un petit message et puis voilà, on transmettra ça directement à Ronan. Allez, on va passer tout de suite à l'invité de Marmite fait son actu.
L'invité de Marmite fait son actu, c'est tout de suite sur le 88.4.
Mehdi Litim est avec nous. Salut Mehdi.
Salut.
Alors, fondateur du Trappy Blog, animateur de feu, l'émission L'Écho pour tous. C'est notre spécialiste économie, hein, mais voilà, qui traite également de divers sujets. Bon, on va pas faire tout ton CV, hein, diplômé de Sciences Po à Paris, diplômé également d'un DESS, je ne sais plus dans quelle université, en économie. Voilà, CV long comme le bras. Et tu es avec nous pour nous parler de la crise des urgences et essayer de comprendre des enjeux autour de la question notamment des déserts médicaux. Alors, le constat est très alarmant. 120 services d'urgence qui ont été obligés de limiter leur activité par manque de médecins, d'infirmières, surcharge de travail, trop de monde qui se rend dans les services d'urgence. Une situation qui mène parfois à la fermeture de services d'urgence. Alors, pour commencer, Mehdi, il faut déjà différencier deux cas au niveau de la crise des urgences. Celles qui ferment et celles qui sont débordées et qui ont d'autres problématiques. On va commencer avec celles qui ferment. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi justement ces urgences-là ferment ?
Parce qu'en fait, dans un service d'urgence, il y a besoin de médecins urgentistes, en plus d'infirmières et de paramédicaux. Et dans les petits hôpitaux de province, dans les campagnes où il n'y a pas grand monde qui habite, avec des faibles densités de population, en fait, on a du mal à trouver des médecins urgentistes qui puissent se relayer, parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'un seul médecin pour faire tourner un service d'urgence, il en faut plusieurs, notamment la nuit et le week-end. Et donc, du coup, il y a des endroits où on a du mal à trouver des médecins urgentistes. Et sans médecins urgentistes, on ne peut pas avoir un service d'urgence ouvert, donc on est obligé de les fermer quand il n'y a pas de médecin urgentiste.
Alors ça, c'est pour la situation la plus extrême, hein, si on peut s'exprimer ainsi. Et puis, de l'autre côté, on a les urgences qui sont débordées car il y a trop de monde. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et ensuite voir les solutions qui peuvent être apportées. Alors la première question, hein, que j'ai envie de te poser, hein, que les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent remarquent quand ils se rendent dans un service d'urgence, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui s'y rend. Ça, c'est le premier constat. Alors, pourquoi tant de monde dans ce service d'urgence ?
Il y a toujours...
Est-ce que c'est le cas partout, dans tous les services d'urgence ? On en compte 620 entre le public et le privé.
Non, en fait, il y a des endroits... Les hôpitaux où il y a assez peu de monde qui habite autour, on a des urgences qui ne sont pas du tout saturées.
Ouais.
L'administration, de temps en temps, et c'est le cas depuis déjà une dizaine d'années, a plutôt tendance à fermer certains services d'urgence sous prétexte que ça ne fonctionne pas suffisamment. Bon, ça, c'est la logique qu'on a pour les fermetures d'écoles, etc. Donc, on a bien des endroits du territoire dans lesquels les urgences ferment sous prétexte qu'il n'y a pas suffisamment d'activité. Là où on a un souci, c'est beaucoup plus, en fait, dans les territoires urbains, où on va avoir des services qui sont saturés pour plusieurs raisons. Mais on a un effet ciseau, c'est-à-dire qu'en fait, on a de plus en plus de gens qui viennent, notamment parce qu'en fait, ils n'ont pas d'alternative pour se faire soigner le soir et le week-end. Et à côté de ça, depuis quelques années, il y a une politique de réduction des effectifs dans les hôpitaux. Et donc, du coup, moins d'effectifs ou des effectifs qui baissent, qui augmentent, mais très faiblement, et des gens qui viennent massivement, puisqu'il y a deux fois plus de passages aux urgences depuis 10 ans, fait que, en fait, les services ont du mal à suivre et sont saturés.
Ouais, on va détailler justement les personnes qui viennent dans ces services d'urgence. Mais tu nous as parlé là, à l'instant de réduction du nombre de praticiens ou en tout cas de soignants dans les hôpitaux. Ça, c'était clairement une décision politique pour faire des économies.
Ouais, l'idée, c'était qu'en fait, il fallait pas que la santé coûte trop cher en termes de points de PIB. Donc on est vraiment sur un point de vue technocratique. On regarde pas trop les besoins en fait de la population qui vieillit et qui devient du coup de plus en plus malade. On va considérer que la santé ne doit pas coûter trop cher. Donc du coup, soit on va réduire en fait certains effectifs, c'est les ARS qui vont s'occuper de ça.
Agences régionales de santé.
Voilà, c'est ça, qui vont être en fait les relais du ministère de la Santé au niveau régional. Soit on va augmenter les effectifs, mais de manière beaucoup moindre que les besoins qui, eux aussi, augmentent, mais beaucoup plus. Donc on est dans une situation, peut-être au début, où il y avait vraiment besoin quand même de repenser la productivité, la qualité des services. Et puis là, en fait, on se rend compte qu'on est allé beaucoup trop vite, trop fort, et que les services ne suivent plus.
Alors, on viendra tout à l'heure aux solutions hein, qui sont proposées. Il y a beaucoup de solutions hein, qui sont justement qui peuvent être mises en place. On va commencer avec ces personnes qui viennent aux urgences et qui ne devraient peut-être pas y être. Les premières, ce sont des personnes qui ont des problèmes notamment psychologiques et qui sont nombreuses à venir, qui se retrouvent en tout cas dans le service d'urgence. Pourquoi ?
Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, quel que soit le type de population, c'est qu'en fait, le service des urgences, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mmh. C'est-à-dire que c'est ce qu'on voit, mais il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui expliquent qu'en fait, tout le monde en fait, aille aux urgences, ou de plus en plus de monde aille aux urgences. Ceux qui ont des problèmes psychologiques viennent aux urgences, notamment parce qu'il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de soins au niveau local, très local, parce qu'en fait, les services de psychologie ou de psychiatrie, en fait, ont été fermés aussi beaucoup, ou alors sont très inefficaces parce qu'ils n'ont pas été accompagnés. Et donc, du coup, il y a une partie de la population qui souffre de troubles psychiques, qui ne trouve pas d'alternative psy. Et donc, qu'on va retrouver, en fait, lors de crise, en fait, aux urgences, soit parce qu'elles se sont fait mal, hein, ou qu'elles ont pris des médicaments, etc., soit parce qu'elles pensent qu'elles ont quelque chose et en fait elles ont rien. Et donc du coup, au lieu d'aller quoi, les urgences normalement c'est en gros des services de traumatologie ou de gestion des risques cardiaques, des crises cardiaques.
C'est des cas graves qu'il faut en tout cas prendre en charge
c'est
rapidement.
C'est ça. Classique en fait, ces médecins-là se retrouvent en fait avec ce type de population-là qui devrait être encadré dans un autre cadre, dans un autre système. Mm.
Il y a également avec un autre souci avec des personnes, avec les personnes âgées, notamment en lien avec les EHPAD. On a tous en tête hein, de nombreux reportages où voilà, des personnes âgées étaient sur des brancards, ou en tout cas ont passé presque toute une nuit, 24 heures pour certains, assises là sur un brancard en train d'attendre d'être prises en charge alors qu'elles n'avaient rien à faire dans ce service des urgences.
Alors ça, donc c'est un autre type de population, c'est les personnes âgées. Alors les personnes âgées, soit elles habitent chez elles et elles ressentent un problème, soit elles sont logées, accompagnées en EHPAD. Dans les EHPAD, normalement, il y a des médecins qui s'occupent des petits bobos et des crises aussi, hein, parce que parmi les personnes âgées, il y a des crises psychologiques aussi. Et le défaut d'accompagnement fait que les personnels qui travaillent en EHPAD ont tendance un peu trop facilement, un peu trop rapidement, à envoyer les personnes âgées qui ont un problème en fait à l'hôpital. Dans les services d'urgence, et on trouve en fait du coup des personnes qui n'ont rien à faire là, mais qui viennent encombrer les services et qu'on n'arrive pas à accompagner et à traiter. Parce qu'en fait, faut le répéter mille fois, mais les services d'urgence, en fait, c'est pas l'auberge espagnole, en fait, c'est des médecins en fait qui sont vraiment spécialisés dans certains problèmes, dans certaines maladies, dans certains traumatismes, et qui savent pas gérer les crises de personnes âgées qui ont un peu mal à la tête ou qui ont des angoisses. Mmh.
Un problème social important également hein, qui est souvent mis en avant, c'est le fait que quand on arrive aux urgences, on ne paye pas et que donc c'est gratuit. Bon, j'aime pas forcément utiliser ce terme parce que c'est pas gratuit. Il y a forcément un acte qui, s'il est effectué, va être payé d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, ça amène aussi toute une catégorie de la population qui se sert peut-être des urgences comme d'un médecin traitant. Quoi.
Oui, en fait, il y a deux types de médecins, en fait. Il y a les généralistes et puis il y a les spécialistes. Si vous habitez dans des zones où il y a pas de certains spécialistes, ou alors sinon il faut attendre une centaine de jours et que vous sentez qu'il y a une urgence, vous pouvez aller à l'hôpital et tenter votre coup en vous disant « je vais être pris en charge par un spécialiste ».
Même
ou une
si
spécialiste,
j'attends 5 heures, 6 heures, au moins, il y a quelqu'un qui va me voir.
Voilà, il y a quelqu'un qui va me voir ou qui va voir mon enfant. Hein, ou qui va voir mon parent, hein, mon père ou ma mère, ou je sais pas quoi, ou ma grand-mère, mon grand-père. Donc il va y avoir cet élément-là. Et l'avantage aussi, c'est que ce spécialiste qui peut coûter cher au quotidien, avec des dépassements d'honoraires, si en plus moi j'ai pas de mutuelle, ça va me coûter très cher d'aller voir ce spécialiste-là. Si je vais aux urgences, en fait, je sais que quelqu'un va s'occuper de moi relativement rapidement et pour un coût modique, voire gratuitement. Et donc, du coup, les urgences, là, jouent le rôle de ce qu'on appelle la médecine de ville, qui devrait être en fait la médecine de ville et de campagne, qui joue le rôle en fait des libéraux, des médecins libéraux, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, qui travaillent en ville ou à la campagne.
La médecine de ville, hein, c'est tous les professionnels de santé qui ne travaillent pas à l'hôpital, qui sont libéraux dans des maisons de santé, etc., voilà. etc.
C'est le médecin, c'est le médecin qu'on connaît, notre médecin généraliste d'en bas du coin, ou alors le spécialiste, quelle que soit la maladie, qu'on va voir quand on a besoin d'une paire de lunettes ou qu'on a mal au ventre et qu'il faut être suivi par un autre médecin que notre médecin généraliste.
Alors, tu as pointé justement un des éléments importants sur lesquels on va parler maintenant, celui des déserts médicaux. Quand tu dis qu'il y a des personnes qui peuvent prendre un rendez-vous, ils sont dans l'urgence, mais en tout cas, ils ont l'impression qu'ils sont dans l'urgence, ils peuvent attendre 50, 100 jours, comme tu l'as dit, avant d'avoir un rendez-vous. Ça renvoie à la notion de désert médical. Alors déjà, c'est quoi un désert médical ?
Un désert médical, c'est une zone, en fait, dans laquelle il n'y a pas de prise en charge correcte de la maladie. C'est si j'ai besoin de voir, si mon enfant ou moi-même sommes malades parce qu'on a une grippe, eh ben il n'y a pas de médecin généraliste qui peut nous voir.
Soit qu'il n'y en a pas, soit qu'il n'y en a pas de dispo.
Voilà. Ouais. En tout cas, il n'y en a pas qui peut nous voir, soit parce qu'il n'y en a pas du tout, soit souvent il y en a, hein, mais sur un bassin de population qui serait trop nombreux, et on a beaucoup de médecins généralistes dans les déserts médicaux qui expliquent ne plus prendre en fait de patients supplémentaires. Donc ça, c'est vrai pour les généralistes. Et puis le désert médical aussi, c'est si je suis enceinte, je peux pas me faire suivre par un obstétricien, une obstétricienne. Si j'ai besoin de lunettes ou si j'ai eu un accident cérébral, il n'y a pas de neurologue, il n'y a pas de cardiologue. Voilà. Et donc du coup, je suis obligé, par exemple, c'est le cas d'un certain nombre de personnes, j'habite à la campagne, et je suis obligé de venir à Paris. Parce que quelque part, il y a plus de disponibilité, notamment parmi les spécialistes, même si je dois faire 300 km. Mmh.
Ouais. Alors, également des choses qui a été pointée pour cette crise de la santé, en tout cas des urgences, c'est un manque de coordination entre les hôpitaux et la médecine de ville. Donc ça, c'est ce que tu as abordé également tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en donner un mot ? Alors là, on n'est pas encore rentré dans les solutions, hein, parce que voilà, il y a des solutions qui sont proposées, il y en a qui ne sont pas forcément mises en application, mais il y a des solutions, on verra ça dans la seconde partie de l'entretien. Mais d'abord, voilà, c'est une des choses qui revient souvent, il n'y a pas de coordination entre les hôpitaux et la médecine de ville ou de campagne. Oui. En l'occurrence, tu l'as signalé tout à l'heure.
Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, évidemment, quand on parle de santé, c'est que plus les personnes sont âgées et plus elles ont besoin de soins médicaux. Mmh. Voilà. La population française vieillit et au fur et à mesure qu'on vieillit, on a tendance à être plus malade. Et il y a de plus en plus de ce qu'on appelle d'affections longue durée. Ça peut être des problèmes de cardiaques, des problèmes neurologiques, ça peut être des cancers, tout ce type de maladies en fait qui durent et qui est dégénératif, donc ça va de mal en pis. Et en fait, le médecin généraliste connaît en fait ses patients. Mais si un patient en fait fait une crise et doit se retrouver à l'hôpital, l'hôpital lui ne connaît absolument pas la personne qui est en face d'elle. Alors quand on a 25 ans et qu'on a un problème, finalement qu'on vient de se casser la jambe, on peut discuter avec un médecin urgentiste ou avec un médecin à l'hôpital, au service des urgences. Mais quand on commence à être un peu âgé, qu'on est en situation de crise, etc., le médecin qui reçoit la personne est obligé de faire plein de tests et donc de perdre peut-être du temps et de prendre des risques. Tout ça parce qu'en fait, on a du mal en fait à partager l'information, à avoir en fait un dossier médical partagé en fait entre tous les acteurs de santé. Donc on a des informations qui sont éparses, on en a les pharmacies ont un logiciel qui reprend l'historique de la consommation de leurs clients, les médecins peuvent avoir un dossier individualisé, mais en fait ça on le retrouve pas. Donc du coup. Les ALD, les affections longue durée, c'est typiquement le genre de maladie qui génère des crises, en fait. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, on est dans une situation, en fait, où on retrouve des patients qui viennent saturer aussi les urgences, sans qu'on sache vraiment ce qu'ont ces patients. Alors que souvent, en fait, ça va être un défaut de suivi d'une prescription médicale, ça va être un petit souci, mais qui est relativement gérable. par des médecins qui connaissent très bien le patient. Et donc, on a une forme d'improductivité, de gâchis énorme du fait qu'on n'a pas de système d'information qui soit partagé par tous les acteurs de la santé.
Alors, ça me fait penser à un mot tout de suite, on l'entend souvent, pas uniquement quand il y a un problème au niveau de la santé, mais sur le mot bureaucratie. Est-ce que c'est une des vraies, une des vraies problématiques qui pourrait, si elle est résolue en tout cas, améliorer la situation de la crise des urgences. Est-ce que c'est plus large que ça ?
Je pense que c'est, en tout cas, il y a un élément qui peut faire penser que c'est plus large que ça, c'est que les services de l'État essayent, que ce soit en matière de santé ou dans d'autres questions, d'autres ministères, de partager l'information. Et ils ont du mal, en fait, à créer des logiciels, en fait, qui puissent partager cette information, que ce soit au ministère de la Défense, au ministère des Finances, et j'imagine dans plein d'autres ministères. On a quand même beaucoup de projets, en fait, qui ont coûté très, très cher et qui n'ont pas pu aller au bout, parce que manifestement, ça reste très, très compliqué à faire. Puis peut-être que c'est pas non plus une priorité absolue.
Vous écoutez Marmite fait son actu sur Marmite FM 88.4. Midi, reste avec nous. Il est 17h35. On marque une pause musicale et on va aborder ensuite les solutions justement possibles à cette crise des urgences et aux déserts médicaux. Juste après la musique, c'est parti.
I can be what I want to, and all I need.
Al Jarreau sur les ondes de Marmite FM 88.4 avec le titre Boogie Down. Il est 17h39. Vous écoutez, bien sûr, Marmite fait son actu comme tous les mercredis. De 17h à 18h, nous sommes en direct pour vous parler de l'actualité de Saint-Quentin-en-Yvelines et ses environs. Toujours avec notre invité Mehdi Litim, avec qui nous parlons de la crise des urgences, des déserts médicaux et des solutions justement apportées à ces problèmes. Alors avant d'aborder les problèmes et les solutions, pardon, Mehdi, il y a des premières conséquences avec toutes ces tout le constat qu'on a déjà fait. C'est peut-être de voir des médecins, peut-être des infirmières. Je sais pas si c'est le cas pour les infirmières, mais en tout cas voir des médecins en avoir marre, parlons simplement, se dire que le système changera jamais, ils sont surchargés de travail, et puis quitter le poste et encore avoir de moins en moins de médecins dans les hôpitaux publics.
C'est vrai pour les médecins, c'est vrai aussi pour les infirmières. Ouais. Donc du coup, les infirmières de mémoire, il doit y en avoir 25 000 qui sont formées par an, qui sortent de l'école, et 10 000 par an ou 15 000 qui quittent la profession. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on forme énormément d'infirmières et finalement, il n'y en a pas autant que ça en fait dans ces dernières années, en plus dans les services. Donc si en fait, il y a ce que disent les médecins, c'est que bon, il y en a certains qui arrêtent, il y a des services qui ferment du coup. Parce que de temps en temps, il y a des médecins, il y a des infirmières, mais il n'y en a pas suffisamment. Donc, on va avoir des services qui vont fermer les week-ends ou quelques jours, le temps qu'une ou deux infirmières reviennent. On a des infirmières, ça doit être le cas aussi des médecins, qui travaillent trop, en fait, qui sont obligés de boucher les trous. Ça a un impact, évidemment, sur la vie de famille, parce que quand on travaille le week-end et le soir, en plus de ces journées classiques, Et ça a un impact aussi sur la qualité des soins. C'est ce que disent les professionnels de santé. Donc, on se rend compte à tous les niveaux, là, je pense, que ces services des urgences, notamment, sont à la limite de l'implosion. Et puis, on voit quand même certains services, en fait, soit qu'ils doivent fermer parce qu'il n'y a plus de personnel, ou soit, comme à Bordeaux dernièrement, qui impose, en fait, des conditions avant de pouvoir accéder aux services des urgences.
Justement, on en vient aux solutions. Alors, pour revenir sur les déserts médicaux d'abord, il y a une expérimentation qui a été menée en Saône-et-Loire en rapport avec le salariat, c'est-à-dire de mettre des médecins, non plus comme des médecins libéraux, en tout cas comme des salariés d'une maison de santé, par exemple. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et nous dire si ça a fonctionné, déjà cette première expérience, cette première expérimentation?
Alors oui, donc l'idée en fait des médecins qui travaillent pas à l'hôpital ou dans les hôpitaux, c'est que ce sont des médecins libéraux, un peu comme des avocats ou des architectes. Là, l'idée, c'est de changer leur statut pour correspondre en fait à un besoin nouveau de la profession qui est en train d'évoluer beaucoup, puisque une majorité en fait des médecins qui sont aujourd'hui diplômés et qui sortent des facultés de médecine sont des femmes qui souhaitent en fait avoir en fait une vie de famille et une vie personnelle beaucoup plus libre et développée que c'était le cas il y a une ou deux générations, et qui souhaitent en fait avoir du temps pour elles. Ne pas avoir des semaines de 60 heures, et puis ne pas avoir à gérer aussi tous les problèmes administratifs qui sont liés au fait qu'il faut bien gérer sa boîte quand on est libéral, quoi. Et quand on est en libéral. Et donc, du coup, un département comme le département de Saône-et-Loire, qui vraiment avait du mal, typiquement un département très rural qui avait du mal, en fait, à attirer des médecins, s'est dit qu'en fait, ils allaient embaucher 70 médecins généralistes à 35 heures. Ça a un coût quand même pour la
collectivité,
ouais, pour le département, parce que financièrement parlant, le modèle économique, c'est le département récupère en fait tous les remboursements de la sécurité sociale et paye un salaire de médecin. Mais entre les remboursements sécu et le salaire du médecin avec les charges, avec les cotisations sociales, il y a quand même un delta qui est pris en charge en fait par le département. Mais ça permet de garantir le service public de la santé de proximité, d'autant plus que ces médecins-là ont dans leur contrat de travail l'obligation de se déplacer et d'aller dans des antennes en fait très très rurales, et donc d'aller voir une partie de la population qui est la plus éloignée des centres de santé, et du coup de garantir une présence médicale. Alors en Saône-et-Loire, ça fonctionne plutôt pas mal. selon les premiers retours qu'on a. Et il y a d'autres départements, notamment un dans le sud-ouest, dont j'ai plus le nom, qui souhaitent en fait mettre en place ça. Et on se rend compte aussi que dans des déserts médicaux comme les quartiers, donc les grands ensembles, les banlieues, de plus en plus en fait de médecins en fait sont salariés par les collectivités locales, de manière en fait à pouvoir aussi garantir l'implantation de médecins dans ces territoires. Mmh.
T'as fait une remarque intéressante là par rapport à ce changement de paradigme, on va dire.
Pas que celle-là qui est intéressante.
Pas que celle-là. Mais par rapport à ce nouveau paradigme là, d'ailleurs, le Covid apparemment et le confinement a accéléré ce processus qui était déjà en cours, notamment chez les plus jeunes, qui se sont dit bon, bah voilà, c'est peut-être pas la peine de s'auto-flageller, de se flageller, de s'imposer des charges de travail de 60, de 70 heures. On a envie aussi de profiter, de pas finir à des heures pas possibles, de partir en vacances, profiter d'une vie de famille. Ça concerne pas que la santé d'ailleurs, hein. C'est très large. Bizarrement, ça concerne surtout les métiers difficiles. Restauration qui a du mal à embaucher, et d'autres également. Donc ça, c'est un problème qu'il va falloir aussi régler économiquement.
Il y a un autre élément aussi qui est apparu ou qui apparaît, c'est la volonté des jeunes médecins, femmes mais pas que, de travailler en fait dans un collectif, ouais. De plus être seul en fait dans son cabinet, et donc du coup de travailler en fait en maison de santé. Et donc on se rend compte aussi que les collectivités locales qui permettent, qui proposent ce travail en fait collectif, donc ça nécessite un travail de réseautage, de création de liens avec d'autres professionnels de santé, de travail aussi avec d'autres médecins, généralistes ou spécialistes, facilite l'implantation de ces médecins-là. Donc en fait, le mix maison de santé, donc travail en équipe plus salariat, même si ça coûte plus cher que le système actuel pour les collectivités locales, ça semble être un mix qui fonctionne plutôt pas mal.
Et puis c'est quand même un transfert de... voilà, c'est le département qui va s'occuper de... les départements, ça peut être les municipalités. Du coup, c'est sur leur budget assez ville. Je ne sais pas si... je ne connais pas le détail des budgets, mais ça va être soit les villes, soit les agglomérations, soit les départements. Et voilà, ça peut être interprété aussi comme un désengagement de l'État sur la santé.
De l'État central, oui, mais comme on est aujourd'hui, nous, dans un... Le problème, il est financier, c'est où les départements vont trouver l'argent. Mais que ce soit une ville, que ce soit un département, que ce soit l'État central, le ministère, oui. C'est l'État aujourd'hui.
Ça revient au même.
Voilà. Mmh. Mais par contre, c'est vrai que les finances des départements ou des villes ou des villages sont quand même limitées, en fait, aux impôts locaux. Et donc, peut-être que sur cette activité-là, par exemple, de salariat de médecin, ça vaudrait le coup, en fait, de créer un transfert de richesse. Ça peut être une taxe, par exemple, sur les médecins qui s'installent, en fait, en zone déjà surdotée. Ça peut être plein d'autres moyens de trouver de l'argent pour permettre ce financement, en fait, des médecins salariés dans les déserts médicaux.
Et dans le cas où des médecins ne veulent pas, ne souhaitent pas, ça peut être des jeunes médecins ou même des moins jeunes, ne veulent pas s'installer dans des endroits, voilà, ils savent qu'il y a des déserts médicaux, voilà, il y a des incitations peut-être financières qui sont faites, mais voilà, est-ce qu'il faut obliger des médecins à aller dans ces déserts médicaux, surtout, on parle surtout de ceux qui sortent de leurs études, hein, en tout cas qui ont fini leurs études et qui vont s'installer.
Alors, la contrainte, c'est une idée qui est assez répandue. Moi, à titre personnel, je pense qu'il y a d'autres solutions, un peu moins contraignantes, un peu moins finalement violentes. Mais c'est vrai que c'est une proposition qu'on entend assez régulièrement, hein, qui est portée par un certain nombre de personnes. Je pense que si on faisait en sorte que les médecins, en fait, soient formés dans les zones à proximité des déserts médicaux, dans des universités locales finalement, que ces jeunes médecins fassent des stages en fait aussi dans ces déserts médicaux, et ça c'est un autre problème qui est plus large, que en fait les écoles ne ferment pas dans ces endroits-là, parce que si je suis jeune médecin et que je veux m'installer, que je veux fonder une famille, qu'il n'y a pas d'école, je ne vais pas venir. J'ai
tout
pas...
un ensemble c'est qui ça. Est à prendre en compte.
C'est ça. Et donc, il y a d'autres moyens que la contrainte, et il faut aussi sortir de l'idée que les jeunes générations de médecins travaillent en fait pour l'argent, ou que pour l'argent, ou principalement pour l'argent, et qu'on arrivera à les faire venir et à rester en leur donnant plus d'argent, parce que manifestement, ça ne fonctionne pas.
On parlait d'obligation tout à l'heure, en concernant maintenant l'obligation de garde, alors qui a été supprimée en 2002. Est-ce que tu peux nous rappeler justement voilà, ce principe de médecine de garde pourquoi pas nous expliquer également pourquoi elle a été supprimée voilà, est-ce qu'il y a une raison officielle, bon, sans faire de la politique politicienne, mais est-ce qu'il y a une raison pour sa suppression? Et puis, voilà, qu'est-ce que tu penses du fait de rétablir cette obligation? Pour l'instant, en tout cas depuis 2002, c'est sur la base du volontariat que les médecins peuvent faire des gardes, peuvent proposer des gardes. Et je te donne un chiffre, en 2021, 39,3% des généralistes ont au moins réalisé une garde.
Alors, les gardes, déjà, pourquoi on en parle, à quoi ça sert, et notamment en lien avec les urgences, c'est faire en sorte que les personnes qui ont des bobos n'aillent pas, en fait, dans un service d'urgence, mais restent avec leur généraliste, aillent voir leur généraliste ou un généraliste à proximité. C'est ce que demande en fait la Fédération hospitalière de France, qui représente les hôpitaux publics, c'est que la médecine de ville et de campagne, donc les libéraux, puissent faire ça, en fait, puissent faire ce travail-là de manière à désencombrer les services des urgences. Et il y a un rapport qui faisait une simulation qui expliquait que alors, c'est lié en fait aux gardes, ça nécessite des gardes, mais que si on avait par ailleurs un numéro obligatoire à appeler avant d'aller aux urgences, aujourd'hui c'est le 15.
Le 15, par voilà. exemple.
Il ouais. Y aurait sans doute autour de 30% de moins de venues en fait aux urgences. Parce qu'une partie des gens, en fait, via une téléconsultation, en fait, au téléphone ou en visio, auraient une réponse à leurs problèmes. Et parce que le 15, en fait, serait capable, en fait, de trouver des créneaux horaires pour le lendemain, pour que ces personnes, au lieu d'aller aux urgences, en fait, aillent voir leur généraliste.
Mais ça suppose qu'il y ait des médecins qui soient disponibles, donc d'où ces gardes.
Alors, il peut y avoir un besoin immédiat en fait de prise en charge. Donc dans ce cas-là, on est sur la question des gardes le week-end et le soir. Donc les gardes en fait, ça a du sens si ça rentre dans le système en fait du numéro obligatoire avant d'aller aux urgences. Mmh. Donc ce rapport explique qu'il pourrait y avoir 30% de moins de venues aux urgences. On a 22 millions de passages en gros aux urgences chaque année, en augmentation chaque année d'environ 3%.
Ça ferait moins 6 millions à peu près.
Ouais, sont bons, en gros, c'est les 30% qui n'ont vraiment rien à faire aux urgences. Mmh. Ça augmenterait de 2% en fait le passage chez les généralistes. Mmh.
Alors justement, tu nous as parlé de ce rétablissement de l'obligation de garde. Alors, est-ce que pour toi, il faut une obligation justement? Est-ce que ça doit être une obligation? Ou est-ce qu'il y a des incitations financières qui existent qui pourraient exister pour inciter les médecins à faire des gardes?
Ce que disent en fait les personnes en fait qui s'occupent de mettre en place des politiques publiques et des acteurs, donc là ça peut être des médecins, des infirmières, des infirmiers, c'est en fait de voir ça au niveau local. Parce qu'en fait, quand on est dans un quartier populaire, quand on est dans une zone très peu dense en milieu rural, ou quand on est au fin fond d'une montagne, en fait, les conditions sont pas les mêmes, les contraintes sont pas les mêmes. Donc moi, je pense que les politiques publiques locales, en fait, doivent avoir une obligation de résultat, donc de prise en charge de la population, parce que c'est un vrai service public obligatoire. Mmh. Par contre, sur la mise en forme, je pense que ça nécessite, en fait, des négociations au niveau de chaque territoire. Là où il faudrait qu'il y ait plus de gardes, eh ben, on le fait. Mais une grande partie quand même des solutions, c'est quand même que les acteurs en fait se mettent ensemble. C'est un des éléments qui est important et qui manque, hein, au-delà du fait que les généralistes veulent travailler ensemble, c'est qu'en fait il faut que les acteurs de santé sur un territoire en fait bossent ensemble et s'organisent ensemble. C'est ce qu'on appelle le CPTS de manière très technocratique. Mais il y a ce manque en fait de collaboration entre les gens. Et puis une fois qu'ils collaborent, eh ben on regarde ce qu'ils arrivent à mettre en place. Et s'ils arrivent à rien mettre en place, là on passe à la contrainte. Mais si on arrive à trouver un moyen non contraignant d'arriver à cette obligation de résultat, de prendre en charge une population, moi je pense qu'il faut, aller plutôt sur cette alternative.
Après ce manque de collaboration, c'est également ce qui avait été cité pour dire que la coordination entre les hôpitaux et la médecine de ville n'était pas optimale. Sauf que ce dossier médical partagé qui pourrait être idéal pour que dès qu'un patient arrive, qu'il soit chez un médecin de ville ou qu'il arrive aux urgences, à chaque fois son dossier est mis à jour. Il y a juste à taper son nom, on tombe directement, en tout cas les professionnels de santé évidemment, ce ne serait pas accessible à tout le monde, mais les professionnels de santé peuvent directement avoir le dossier médical. Ça, ouais. On en parle depuis peut-être, une dizaine d'années, je ne sais pas combien de temps, mais ça n'arrive pas à voir le jour.
Ça n'avance pas, mais là on est dans des situations en fait de crise, puisqu'en fait on parle du service des urgences. Oui. Il pourrait y avoir en fait une partie de la prise en charge médicale qui serait le fait des acteurs vraiment locaux, par exemple plusieurs médecins généralistes qui travaillent, ou plusieurs maisons de santé qui travailleraient ensemble, voire des kinés, voire des pharmacies, voire tous les acteurs de santé, et voir comment on pourrait prendre en charge en fait vraiment déjà les tout petits bobos. Parce que aider les urgences, c'est aussi prendre en charge en fait les tout petits bobos, les 30% en fait de gens qui n'ont vraiment rien à faire aux urgences. Et ça nécessite, au-delà des obligations de garde individuelles en fait, la mise en commun de ressources de tous les acteurs au niveau local.
Alors la réponse politique qui a été apportée à cette crise des urgences, c'est de l'argent, comme souvent quand il y a des crises politiques. Alors la ministre donc de la Santé, Brigitte Bourguignon, qui a donc remplacé, qui a succédé à Olivier Véran, a déclaré récemment, à chaque fois qu'elle est critiquée, que 19 milliards avaient été mis sur la table quand même avec le Ségur de la Santé. Qu'est-ce que tu penses de cette somme? Il y a des revalorisations. Je prends l'exemple, par exemple, des infirmières. Je ne sais pas si c'est les infirmières à vérifier ou si c'est global. De 138 euros net par mois, donc d'augmentation. Ce qui en fait quand même, toujours pour les infirmières, par exemple, dans la moyenne des pays de l'OCDE, ça en fait quand même les moins payés, en tout cas moins bien payés qu'en Italie, moins bien payés qu'en Espagne, moins bien payés qu'en Allemagne, par exemple. Toutes les infirmières sont au-dessus du salaire moyen, alors qu'en France, les infirmières, même avec ces 138 euros supplémentaires, sont en dessous du salaire moyen. Alors justement, sur cette question.
Alors, les infirmières, elles, notamment les infirmières, mais les autres paramédicaux qui travaillent dans les hôpitaux, en fait, avaient cette demande-là. Donc, en fait, c'était quand même un besoin, et je pense que c'est une bonne chose qu'elles aient été revalorisées. Mais les retours, quand même, c'est que c'est pas que des histoires d'argent, c'est aussi des histoires de respect et de dignité de la profession. Un autre élément qui est important pour ces personnels de santé-là, c'est que leur voix soit entendue, en fait, dans l'organisation de leur travail.
Oui, parce qu'elles sont souvent déconsidérées. On a vu beaucoup de témoignages d'infirmières, notamment, qui disaient que par rapport à la hiérarchie, pas de reconnaissance du travail, etc., etc.
C'est ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé dans les hôpitaux, c'est que les administratifs, en fait, ont pris le pouvoir sur les hôpitaux, en lien avec les ARS et avec le ministère de la Santé, dans le but en fait de réduire en fait les coûts des hôpitaux. Les équipes, que ce soit des équipes de médecins ou que ce soit des équipes d'infirmiers et d'infirmières, en fait, ont moins été écoutées par la direction des hôpitaux et donc un peu traitées comme du petit personnel. Et notamment quand on est en période de tension, parce qu'en fait, il n'y a pas suffisamment de personnel, les infirmières ont envie en fait qu'on les écoute, et c'est vrai aussi pour les médecins, pour voir comment on peut réorganiser les services quand ils ont besoin d'être réorganisés. et pas uniquement être pris comme des larbins à qui on donne 138 euros de plus. Donc ça, c'est une question qui est plus large que celle de l'argent, qui est plus large que celle des hôpitaux et qui consiste à dire qu'il faut respecter toutes les personnes qui travaillent. Et quel que soit leur statut professionnel ou social ou l'argent qu'elles gagnent, les écouter et travailler avec elles. Et ça, c'est quand même une revendication qui est forte dans les hôpitaux aujourd'hui.
Bon, c'était très intéressant, mais il nous reste une petite minute. Est-ce qu'on peut parler des solutions qui ont été... Alors, on aurait pu parler du numerus clausus notamment, mais j'aimerais bien, pour terminer, parler de la téléconsultation et peut-être des produits connectés qui sont également... qui ont le vent en poupe et qui sont en train d'être développés. Est-ce que c'est l'avenir ? Est-ce qu'on pourrait voir ça aussi comme quelque chose d'un peu déshumanisant, le fait de dire que personne malade va dans une cabine à distance, le médecin ne la touche pas, il n'y a pas de contact humain, voilà. Il te reste une minute pour finir, à peine. Alors, 30 secondes.
Il y a plusieurs types de téléconsultations, parce qu'il y a téléconsultation devant son téléphone ou devant son ordinateur. Pour des tâches qui ne nécessitent pas de faire 60 km aller-retour, je pense que c'est une bonne chose. Par exemple, pour une prescription médicale. Après, il y a aussi, comme tu le disais, en fait, l'histoire des cabines, où là, les gens pourraient, à proximité de chez eux, en fait, être accompagnés par une infirmière ou un infirmier et ne pas être seuls face au médecin. Donc ça, je pense, moi, que ça peut être une bonne solution et que, en plus des objets connectés qui vont quand même faciliter la vie de plein de monde dans ces prochaines années, on va sans doute aller dans cette direction-là, vu la pénurie de médecins qui va exister encore un petit peu.
Merci beaucoup, Mehdi, pour cette intervention. C'est déjà terminé, 17h59. On aura l'occasion, j'espère, de reparler de cette thématique qui était passionnante. Marmite fait son actu, c'est déjà terminé. On n'a même pas eu le temps. On a préféré laisser la parole à notre invité de passer la minute conso. Vous pourrez la retrouver directement sur notre site internet marmitefm.fr. Le prochain direct, c'est ce soir à 20h avec l'Anti-Sèche, l'émission que personne ne sèche, avec un animateur surprise. Je ne vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Roland, à la technique, et bonne soirée.
Marmite fait son actu tous les mercredis de 17h à 18h en direct sur Marmite FM.